BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi une sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité du jour et l'optimisme qui est de retour sur les marchés. L'ensemble des bourses européennes dans le vert ce midi, y compris le CAC 40. Et l'espoir d'une réouverture du détroit d'Ormuz qui fait redescendre les prix du pétrole, le Brent notamment, qui retourne autour des 96$ le baril. Détente légère, mais détente quand même sur le marché obligataire, avec un 10 ans français autour des 3,6% et un 10 ans allemand toujours sous les 3%. Cette accalmie sur les marchés portés par les derniers développements dans la guerre au Moyen-Orient. Les gardiens de la révolution iranien ont fait savoir dans la matinée qu'ils jugeaient peu probable une reprise de la guerre avec les États-Unis. Parallèlement, on a appris que le président iranien s'était dit prêt à parvenir à un cadre respectueux pour mettre fin à la guerre lors d'une conversation téléphonique avec le dirigeant qatari. Donald Trump, lui, réunit aujourd'hui son gouvernement à Washington. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne. Amis professionnels de ce secteur de l'IMO, le pro de l'IMO des terrain de vos métiers, des coups de cœur, mais aussi des coups de gueule. Et ce sera le cas aujourd'hui. Coup de gueule d'un courtier quand tout le monde valide le crédit immobilier, y compris la banque, mais que c'est l'organisme de caution qui bloque. On verra ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour notre débat du jour. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu notre duo de choc de l'assurance de prêt et on va voir aujourd'hui comment notre activité professionnelle peut jouer sur nos tarifs. Mais d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et a priori, on est en ligne avec Anthony Rocher, le directeur de l'agence Vous Financez de Lille. Bonjour Anthony.
Bonjour à tous.
Alors, je le disais Anthony, votre coup de gueule du jour, c'est toutes ces petites choses qui font que même quand tout est réuni pour obtenir le crédit IMO, il y a quelque chose qui bloque. Et là, en l'occurrence, ça va être l'organisme de caution. Vous nous expliquez, vous nous rappelez ce que c'est que l'organisme de caution et en quoi ça peut bloquer parfois?
Tout à fait. Donc, la caution ou l'hypothèque, ça sert à sécuriser le crédit auprès de la banque. Donc, la banque vous prête de l'argent. Si vous ne la remboursez pas, elle va se prémunir et prendre une garantie ou une hypothèque sur la maison pour être sûr d'être payé. Donc, en fait, ça sert à stabiliser, à sécuriser le crédit. Et aujourd'hui, ça devient un obstacle qui est quand même assez bizarre.
Mais alors, pourquoi ça pose problème? Ce que je comprends pas, c'est qu'effectivement, vous nous dites qu'en fait, il y a des cas où il y a tout qui rentre, mais pas l'organisme de caution. Donc comment c'est possible qu'il puisse y avoir ce décalage finalement entre la banque elle-même et puis l'organisme de caution de l'autre?
Alors les banques ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des banques qui ont leur propre garantie interne, leur propre caution, et d'autres passent par la plus connue, le crédit logement par exemple. Donc j'ai eu le cas moi personnellement sur un client qui a été refusé en crédit logement, sur la plus grosse, et une banque sociétaire l'a accepté sous sa garantie interne. Donc le même dossier, les mêmes chiffres, les mêmes montants, le même montant de crédit d'ailleurs. Un refus d'un côté, deux semaines après, un accord.
Mais c'est quoi l'argument? C'est quoi l'argument? C'est ça ma question.
C'est la très très bonne question. On n'a pas la vue sur les choix internes, sur le back-office de cet organisme. On n'a pas les informations. On n'est pas au courant comment faire.
Non mais attendez, Anthony. Ils vous disent non, mais vous ne savez pas pourquoi.
Non. Alors, le nom. On a le pourquoi, mais on a pourquoi ils disent non et la même banque à côté nous dit oui pour les mêmes dossiers incompréhensibles. Moi, courtier, ça fait 6 ans que je suis courtier. Le dossier que je propose, c'est que j'y crois. Donc, endettement inférieur à 35%, des revenus stables, de l'épargne, des bonnes gestions de compte. On vérifie tout. Donc, on a la banque qui me dit oui, l'assurance me dit oui, le taux d'usure qui est devenu un problème est passé également. Et on va pour fixer un rendez-vous en agence et on me dit non, refus de la caution. Et là, je dis, je comprends pas. Trouvez-moi une solution. On ne peut pas. Merci, au revoir. Donc, les clients déçus, moi-même très surpris. Je fais mon travail, je change de banque et une banque avec notre garantie me dit oui.
Alors, ma question, du coup, Anthony, ma question, du coup, c'est une fois que vous avez des arguments, peu importe qu'ils soient valables ou non, mais que vous voyez la différence de traitement, est-ce que vous avez réussi à cibler les profils d'emprunteurs, justement, qui sont plus susceptibles d'avoir cette problématique?
Alors, tout à fait. Il y a les typologies. Alors, les gens qui sont auto-entrepreneurs ou en début d'activité, par exemple, la banque n'a pas d'historique, n'a pas d'ancienneté, donc peut prendre peur, la garantie peut avoir peur sur leur capacité à aller une somme d'argent tous les mois pendant 2, 3, 20 ans. Également, les gens, là, mon client, par exemple, était dans le même secteur d'activité, avait simplement changé d'entité, même secteur, même revenu. La banque estime que le fait d'avoir changé d'entité est préjudiciable.
C'est une forme d'instabilité pour elle, quoi.
Alors que oui, mais dans l'autre banque, c'est, vu que c'est le même secteur, elle estime que elle, c'est OK. Donc il n'y a pas de raison. Donc là, notre travail du courtier, c'est de bien analyser et surtout de pouvoir réagir rapidement. Imaginez le client qui n'était pas accompagné, un refus au bout de 2 mois, il donne un préavis de principe au notaire, il avance, il a un refus, il perd quand même 10% du projet et pour se retourner, il est dans le stress.
Il faut faire quoi, Anthony, d'un mot, après je vous abandonne, mais d'un mot, il faudrait faire quoi pour que ce soit plus simple et qu'on n'ait pas ces risques-là, en fait?
Le problème, c'est qu'au démarrage, c'était pour sécuriser le dossier. Et là, ça devient pour nous empêcher. Ça devient un peu, c'est un obstacle. Donc, la question, c'est bien analyser avant et bien voir quelqu'un de compétent qui va vous dire, on va vous suivre. D'autres banques font l'inverse. J'ai des banques avec qui, par exemple, on fait l'inverse. On interroge d'abord la garantie pour valider le dossier. Et j'ai réussi à faire un dossier quasi sans apport sur 500 000 euros, avec 1 000 euros d'apport.
Je vais vous passer un petit coup de fil, Anthony.
Avec plaisir.
Crédit de 500 000 euros sans apport, appelez Anthony Rocher.
1 000 euros d'apport. 1 000 euros d'apport ce matin, tout à fait.
Oui, enfin, sur 500 000, c'est peanuts. Hein, donc, ouais. Bravo, Anthony, du coup, hein, votre coup de gueule, il s'est transformé en auto-promo. Merci, Anthony. Anthony Rocher, directeur de l'agence Vous Financez de Lille, pour ce témoignage, ce coup de gueule et donc cette nécessité quand même de prévoir en amont son crédit immobilier, parce que dégainer trop tard, on peut avoir des petites aventures un peu problématiques. Si, comme Anthony, vous souhaitez témoigner, apporter vos coups de gueule, vos coups de cœur aussi, vos témoignages terrain, n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Mais oui, notre duo de choc de l'assurance de prêt. Quand je le dis comme ça, on doit se dire on vit dans un monde merveilleux quand même, dans les experts de l'IMO sur BFM Business. À mes côtés, Astrid Cousin, la porte-parole de Magnolia.fr. Bonjour Astrid.
Bonjour Marie.
Et avec vous, évidemment, Emmanuel Provost, le directeur général d'Afiesca Patrimoine. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Marie.
Et alors aujourd'hui, évidemment, on parle d'assurance de prêt, mais aujourd'hui, on va parler spécifiquement de l'impact des professions, de notre activité professionnelle sur nos tarifs d'assurance. Quel est le poids finalement de ces activités professionnelles dans les décisions des assurances qui vont nous apporter donc cette assurance de prêt, cette assurance emprunteur, Astrid?
C'est un critère tout aussi important que l'âge ou même la santé de l'emprunteur. Peut-être.
On verra même que c'est lié en cours de
l'assurance. Voilà, bien sûr, ouais. C'est complètement lié. Et surtout, il y a, au-delà du fait que, bien sûr, l'activité professionnelle a un impact sur la santé, il y a aussi la question de stabilité des revenus, qui est aussi très importante. Donc, c'est vraiment un critère essentiel, en fait.
Oui, et puis j'imagine qu'en plus de ça, effectivement, vous avez des typologies très précises que les assureurs ont identifiées pour considérer que c'était des profils plus ou moins risqués et donc plus ou moins chers.
Voilà, il y a 6 grandes familles qui nous permettent un peu de faire, nous, on va dire, de les catégoriser. La première, ça va être qui va être forcément
les moins risqués.
Les moins risqués. Ouais. Ça va être les cadres CSP+ et les activités intellectuelles, administratives, voilà. En plus, vous avez les employés de bureau.
Ouais.
Vous avez les salariés avec activité physique.
Donc ça commence un peu à se compliquer, quoi.
À chaque fois, ça commence un petit peu à se compliquer. Ouais. Donc après, activité physique, ça va être de la manutention légère ou des métiers un peu techniques.
Ouais.
Vous avez les professions avec déplacement important. Donc c'est au-delà de 15 000 km par an. Donc là, vous allez avoir les taxis, les chauffeurs, les livreurs, etc. Ouais. Vous avez là les ouvriers ou les métiers avec port de charge plutôt lourde.
Ouais.
Donc, par exemple, vous avez les cuisiniers, les manutentionnaires,
les métiers du bâtiment.
Les métiers du bâtiment, voilà. Et en dernière catégorie, vous avez les artisans, les commerçants et les libéraux, parce que là, ça va demander souvent un un questionnaire un peu plus poussé pour comprendre un petit peu justement la stabilité financière, dépendance à l'activité. Est-ce que si vous arrêtez de travailler, l'entreprise tourne toujours, le risque d'arrêt de travail et le caractère vraiment, ce que je disais, donc indispensable du dirigeant d'entreprise.
Ah bah tiens, justement, à propos des dirigeants d'entreprise, on a fait un petit... Vous inquiétez pas, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, hein, mais quand même, vous parliez des dirigeants d'entreprise, nos patrons, tiens, ils sont assurés comment ?
Ils sont bien assurés, nos patrons.
Bon ben voilà, on passe. Non, je plaisante.
Non, Marie, en fait, on a deux types de patrons. On a ceux dont on entend parler le plus souvent, c'est quand même les petits patrons de PME, les TPME.
Et on peut pas dire qu'eux, ils ont pas quand même une charge importante
ouais,
sur eux.
Ouais. Et en fait, là-dessus, il faut distinguer plusieurs cas. Vous avez les patrons de TPME qui sont derrière leur ordinateur et qui vont voir des clients. Et puis vous avez les artisans. Ce sont des patrons d'entreprise, des artisans.
Ah oui, ils ont plein de profils.
Les artisans, on les classe dans la catégorie de leur métier. Même s'ils sont chefs d'entreprise, vous voyez. Ouais. Bon, à part effectivement celui qui aurait monté une énorme boîte de plomberie, de menuiserie et qui passerait son temps à chercher des clients et
ouais,
faire sa comptabilité.
Ouais, c'est pas exactement la même chose.
Mais voilà, mais ça, on l'interroge, on va dans les détails.
Mais du coup, la taille de l'entreprise aussi, effectivement.
Il y a les patrons de plus de 10 salariés et de moins de 10 salariés. Enfin, en tout cas, chez nous, je sais qu'on les différencie comme ça. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les questionnaires, mais en tout cas, plus de 10 salariés, on estime qu'il met un peu moins la main à la pâte et qu'il est plus dans la comptabilité, etc.
Donc, il sera mieux traité au niveau de son assurance.
Exactement. Et donc aussi que si demain, il lui arrive quelque chose, l'entreprise peut continuer un petit peu à tourner. Moins de 10 salariés, on estime, en tout cas en assurance, qu'il est beaucoup plus indispensable, que l'entreprise dépend beaucoup plus de lui et aussi qu'il est un peu plus dans le technique. Donc, potentiellement, qu'il puisse être aussi plus impacté par sa activité physique, etc.
Ouais, mais alors je digresse un peu par rapport aux éléments que vous m'aviez envoyés tous les deux, mais enfin, un patron d'une très grosse boîte qui a quand même une charge psychologique qui est quand même pas neutre, j'imagine que ça aussi, ça va pas forcément...
On va parler des patrons des très, très, très grosses boîtes.
Ouais.
On va distinguer plusieurs choses. Le patron d'une très grosse boîte qui fait, qui a son conseil d'administration, qui est peut-être une boîte du CAC 40, lui, il est tarifé de façon tout à fait normale.
Ouais.
En revanche, si ce patron du CAC 40 dirige une société où, 6 mois dans l'année, il est en déplacement à l'étranger, dans des pays à risque,
ouais,
qu'il exerce
aussi, ouais,
des choses comme ça, alors là, on parle plus du tout de la même chose.
Mais sur les risques sociaux qu'il peut y avoir dans une entreprise, par exemple, si c'est sur un secteur d'activité, quand bien même c'est une très grosse boîte qui licencie beaucoup, par exemple, est-ce que là, on peut prendre en compte l'aspect psychologique pour le patron aussi
Ils
de la boîte?
Ils vont pas aller autant dans le détail sur l'activité de la boîte. En revanche, si le patron a fait un burn-out il y a 6 mois, c'est violent.
On va en parler, ouais, des burn-out.
Et donc, il y a quand même... on va pas aller dans le détail à ce point-là de l'activité.
Ouais.
Il y a vraiment bureau ou activité physique ou passif médical.
Bon, on va rentrer dans le détail des professions qui sont dites à risque au-delà, effectivement, de ce cas spécifique des dirigeants d'entreprise. J'ai lu la liste. Les journalistes.
Ouais.
Je me suis sentie un peu visée. Après, je ne crois pas que la manière dont j'exerce mon métier aujourd'hui puisse être considérée comme un risque. Mais est-ce que, typiquement, sur ce cas précis, où on met, j'ai envie de dire, tout un tas de métiers à l'intérieur d'un métier dans le même panier, est-ce que ça, moi, je pourrais être supprimée au niveau de mon assurance ?
On va prendre une grande règle pour les professions. Aucune profession n'est supprimée. Sauf si à l'intérieur même de cette profession, il y a des risques qui sont des risques physiques, des risques politiques ou des risques d'expatriation.
Ouais.
Voilà, en dehors de ces trois risques-là, et évidemment une surprime s'il y a un problème médical. Mais là, tout le monde est concerné.
Non, mais là, en l'occurrence, par exemple, j'ai pris le cas spécifique des journalistes. Mais évidemment, les reporters de guerre qui sont hyper importants pour notre métier.
Il y a des questionnaires professionnels. Voilà. Donc, vous allez
préciser. D'accord.
Voilà. Vous allez devoir préciser dans un second temps en quoi consiste votre métier de journaliste.
Donc, okay. Marie, vous n'êtes pas...
Non, a priori, non.
Vous n'êtes pas en déplacement dans des pays un peu à risque.
A priori, non. Alors, l'exemple après, évidemment, donc là, j'ai pris l'exemple pour plaisanter des journalistes, mais enfin, le vrai bon exemple, les militaires, forces de sécurité. Là, pour le coup, on est sur des métiers qui, j'imagine...
Souvent, ils ont leur propre assurance, je sais pas si... Qui les assure pour ce genre de prêt, parce que je sais, en tout cas, que nous, on n'arrive pas... on n'a pas forcément de solution.
Ah, c'est intéressant ça. Donc si c'est le cas de certains qui nous écoutent et qui nous regardent, donc dans les forces de sécurité, du côté des militaires, etc. Attention, il faut aller voir. Il y a une assurance spécifique pour ce type de métier.
Oui, absolument. Sauf que les assureurs alternatifs ont quand même améliorer leur sélection des profils militaires.
Ouais.
Aujourd'hui, on peut quand même avancer certaines professions. Par exemple, les gendarmes, les policiers qui sont sur la route, qui sortent de leur brigade, etc. Eux sont ont tout à fait un régime tout à fait normal. Maintenant, on va prendre les extrémités. Alors les extrémités, je me suis renseigné auprès de mes services. L'extrémité, c'est les forces spéciales.
Oui.
Bon, alors on n'en connaît pas forcément. Hein. Alors là, les forces spéciales, on a des exclusions sur les garanties complémentaires.
Hein, mais ça, voilà, on le précise.
Normal,
c'est vrai,
mais c'est tout à fait normal. Hein. Mais ceci étant, les gens qui font ce métier sont au courant de ce type d'exclusion. Et puis vous avez les pilotes de chasse juste en dessous, hein. Et puis par exemple les douaniers, si vous n'êtes pas armé, vous êtes en profil normal. Par contre, si vous êtes un douanier armé, c'est autre chose.
Mais alors, juste, j'ai une question pour celles et ceux qui pourraient être concernés. Si, par exemple, dans un couple marié, il y en a un qui exerce une profession qui est quand même particulièrement risquée ou jugée risquée par l'assurance de prêt, est-ce qu'il est possible de n'assurer que l'autre profil? Est-ce que c'est pas la bonne solution pour...
C'est un petit peu la banque qui devra décider aussi.
Ouais.
Parce que si vous avez des revenus qui sont 90% madame, 10% monsieur, voilà, vous pouvez pas tout assurer sur la tête de monsieur. Et
alors, dans la même liste des professions considérées comme à risque, on passe quand même des forces spéciales aux politiques.
Absolument.
Alors, oui, mais alors, évidemment, ouais, mais pas le même risque quand même.
C'est un risque juridique. C'est un risque spécial, les PPE. C'est-à-dire que ça n'est pas c'est ce qu'on appelle les
politiquement exposés.
Les personnes
politiquement et personnalités exposées. Ouais.
Voilà, exactement. Ce ne sont pas les services de sélection du risque qui sont concernés, en tout cas chez FISK. C'est le service juridique qui décide si on prend telle ou telle personnalité. Parce que dans les personnalités, vous avez les personnalités politiques, alors vous avez le président, premier ministre, vous avez les ministres, vous avez les sénateurs, vous avez les députés, puis vous avez leur famille, les enfants, etc. Et puis, vous avez également, je ne savais pas, je l'ai appris en préparant cette interview, les membres de direction d'une entreprise nationalisée. Voilà, ce sont des PPE. Absolument. Ah oui, tout à fait.
Mais du coup, ça élargit quand même.
Oui. Alors, les PPE, c'est simple. Hein. Soit on les prend, soit on les prend pas. Voilà.
D'accord. Donc, il n'y a pas de surprime. C'est soit vous l'avez, soit vous l'avez pas, quoi.
Il n'y a pas de surprise.
Non, et de surprime.
Oui, j'ai compris. Il n'y a ni surprime, ni surprise.
D'accord. OK. Mais donc, c'est quand même des cas spécifiques.
Oui, c'est quand même très spécifique. Hein.
Pardon, mais quand vous dites personnalité exposée, vous mettez les célébrités au même.
Non.
Dedans, non?
Non.
Je me soucie de la capacité d'un grand chanteur ou d'une grande actrice d'avoir un crédit. Hein, mais
non, les chanteurs à succès ne sont pas des PPE.
A priori, ils ne prennent pas d'assurance chez FISK. C'est dommage.
Si.
On en a
mais ils sont pas PPE.
Ah oui, il faut que ça se fasse, tiens.
Il faut savoir que dans les compagnies d'assurance, les PPE suivent un circuit très particulier. Il y a une très faible... Il y a une minorité de gens qui sont au courant que le dossier est chez nous.
Ah bah oui, j'imagine quand même qu'il y a forcément...
C'est tout un circuit particulier, oui.
D'anonyme. Sportif, professionnel et pratiquant de intensif, pratiquant intensif. Donc vraiment, oui, c'est pas le sportif qui va une fois par semaine à la salle de sport. On parle vraiment...
Non, oui. Donc,
et donc là aussi, ça fait
professeur de ski alpin...
Ah oui, mais enfin là, c'est très spécifique.
Alpiniste,
professeur de ski alpin, quoi.
Ou quelqu'un qui pratique en montagne. Par exemple, nous, quasiment à chaque fois qu'on a des habitants du coin de montagne, on sait qu'il y a quand même ce gros risque. Tout de suite, on interroge tout de suite sur la pratique du sport.
Ouais.
Parce que selon le fait qu'ils aient ou pas un... Comment on appelle ça?
Un brevet.
Un brevet ou une pratique qui dépasse tant d'heures, là on sait qu'ils vont être soit supprimés, soit exclus sur la pratique du sport.
Ouais, alors c'est ce que je disais, c'est-à-dire que souvent dans la liste des métiers dont on va continuer à parler, il y a des cas où c'est même pas la question de la surprime, c'est carrément vous l'avez pas, quoi, l'assurance, c'est quand même...
Ou alors on les exclut sur la pratique du sport.
Ils sont pas couverts, en gros, s'il y a un pépin dans l'exercice.
Sur l'exercice de la pratique sportive, pardon.
Après, il y a assez peu de professions, enfin de professionnels sportifs qu'on refuse en assurance.
Oui, oui.
Alors après, le tarif est évidemment plus cher quand on est un cascadeur, quand on est un moniteur de plongée ou voilà un scaphandrier.
Enfin, oui, il y a quand même.
Il y a tout de même des
professions spécifiques et il y a tout, ouais. Dans tous les sports. Non, mais évidemment.
Voyez, il y a toujours des assureurs qui gèrent bien ce risque.
Ouais.
Et nous, avec nous, enfin, en tout cas, nous, on sait très bien qui l'envoyer. On sait que, par exemple, Afi et Sky, ils sont plutôt bons là-dessus.
J'en profite parce que c'est bientôt l'été, là. Donc, il y a des gens qui vont aller faire de la plongée. D'accord. Remplissez très très bien votre questionnaire de santé. Si vous faites de la plongée à moins de 40 mètres avec un brevet de niveau 1 accompagné, ce qui est la majorité des cas aujourd'hui, vous êtes assuré en tarif normal, il n'y a aucun problème, même un baptême de plongée, même si vous en faites un mois par an, vous êtes assuré de façon tout à fait normale.
Non, mais là, si on ne l'a pas spécifié, ça m'intéresse, mais là, si on ne l'a pas spécifié au moment de la souscription de l'assurance de prêt, qu'on faisait de temps en temps, mais genre on en a fait deux fois dans sa vie,
non,
alors les
pas
questions
grave.
Vont être ciblées sur le...
Alors, ce n'est pas grave parce qu'en assurance, tout ce qui est dans les conditions générales, et de toute façon valable pour tout le monde. Et dans les conditions générales, vous avez stipulé plonger en dessous de 40 mètres, etc.
Donc
même si vous ne le déclarez pas, tout va très bien.
Bon, bah déjà, voilà. C'est rassurant. Non pas que je sois une professionnelle à plonger, mais je pense qu'effectivement, l'été arrivant... Bon, le cas spécifique des expatriés. Là, évidemment, forcément, bah, ça dépend où on se trouve. C'est à peu près ça l'idée aussi.
Oui, ça va... Je commence, ça va juste dépendre du système de santé locale, du niveau de sécurité, bien sûr, et du contexte géopolitique. Clairement, France et Union Européenne, ça pose pas de problème.
Ça va, c'est pareil que partout.
Nous, je sais que chez Magnolia.fr, dès qu'on a des cas d'expat sur des zones un petit peu à risque, justement, on envoie d'ailleurs souvent à Fiesca.
Cadeau.
Ouais, c'est vrai, parce que ils sont plutôt bons là-dessus. Donc, Emmanuel, je vais te laisser... faire des précisions.
Mais en gros, c'est ça. Si je suis expat, comme disait Astrid, dans des pays sécures à l'échelle de l'Europe,
oui,
globalement,
rien,
ça va.
Il n'y a rien.
Après, là, par exemple, un expat à Dubaï, pas sûr que ce soit la même histoire.
Absolument. Il y a deux points importants en expatriation. Le premier point, c'est que ce sont les réassureurs qui sont en contact, eux, avec le Quai d'Orsay et l'État,
ouais.
Et qui a accès à la liste des pays. Alors, par exemple, il y a trois mois, Dubaï était, comme les Émirats arabes, comme l'Ukraine il y a cinq ans, etc., ouais. Était tout à fait convenable et on prenait les expatriés. Aujourd'hui, on ne les prend plus.
Ah, vous les prenez plus.
On ne les prend plus. Ah, Dubaï, les Émirats arabes, Ukraine, on ne les prend plus. C'est très important. Et puis, la deuxième chose qu'il faut savoir, Marie, c'est que on analyse un pays, pas seulement s'il y a un conflit, mais on l'analyse au niveau de sa sécurité alimentaire, sanitaire.
Sanitaire, ouais, je mets.
Voilà. Est-ce qu'on peut être, si on a un malaise dans un pays, est-ce qu'on peut être rapatrié en moins d'une heure, deux heures, trois heures? Est-ce qu'il y a des secours? Est-ce que, voilà. Et il y a toute une analyse d'un pays. Et donc, on a une liste très précise avec des éventuelles surprimes pour les pays. C'est très précis.
Ah, un jour, il faudrait que vous me transmettiez cette liste, ça m'intéresse.
Oh, je ne sais pas.
Oh, bah, si, quand même, pour savoir, en gros. Puis si ça peut.
Rien pour vos yeux, Marie.
Si ça peut inspirer les futurs expatriés à savoir où ils peuvent aller pour être le moins surprimé. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Bon, il nous reste que 3 minutes pour aborder. Alors, je vais mettre les deux ensemble, les maladies non objectivables et les burn-out.
Ça, bah, c'est dedans,
si
d'ailleurs.
Ensemble, hein.
Ça va dedans.
Et c'est là où on va faire le lien entre les professions et aussi notre état de santé, finalement. C'est à peu près ça l'idée. De par l'exercice de ces professions.
Exactement, donc les maladies non objectivables, qu'est-ce que c'est? C'est finalement toutes les maladies dont le diagnostic est difficile à poser, qui est difficilement justement objectivé. On a du mal un peu à évaluer clairement le risque, etc. Donc c'est burn-out, dépression, les troubles anxieux, les lombalgies, donc sans cause objectivable, et les fatigues chroniques. En gros, c'est les cinq grosses pathologies qu'on retrouve dans les MNO. Donc c'est ce que je disais. Donc pourquoi c'est si difficilement assurable et pourquoi on prend autant de précautions? Parce que c'est très difficile à objectiver.
Parce que c'est très difficile aussi à anticiper.
Que le risque de rechute est très élevé quand on a eu des problèmes de dos une fois.
Je vous le confirme.
Voilà, ça revient.
Ouais.
Un burn-out ou quelqu'un qui a un peu un terrain dépressif, ça revient et ça génère surtout beaucoup d'arrêts de travail. Je crois que c'est d'ailleurs la plus grosse cause du sinistre en assurance.
Ouais.
Donc qu'est-ce que ça provoque? Bah, souvent des exclusions, c'est-à-dire que
Des exclusions.
Alors en fait, c'est même, ça va au-delà, c'est même des refus parce que mais les banques aujourd'hui ont fait rentrer les maladies non objectivables dans les critères d'équivalence de garantie. Donc en fait, si la personne ne peut pas être assurée sur les MNO, le dossier va.
Non, mais ça veut dire que, admettons, il y a 10 ans, j'ai fait un burn-out.
Non, il y a 10 ans, voilà, mais ça va.
Alors, il y a 5 ans, j'ai pas choisi le bon délai.
Ça va dépendre aussi des assureurs.
Ouais, ouais, mais possiblement, si j'ai fait un burn-out ces 5 dernières années, dis-le, j'essaie de raccourcir le délai. On peut me dire, au moment où j'entame ma recherche d'assurance de prêt, bah, en fait, non, parce que vous risquez d'en refaire.
Alors, ça peut même, vous pouvez peut-être pas devoir parfois motiver votre burn-out,
c'est-à-dire pourquoi expliquer
pourquoi vous avez fait un burn-out. Donc, est-ce que c'était un contexte social, par exemple, d'entreprise avec une entreprise qui s'est cassé la tronche et qui a viré tout le monde, etc. Ou est-ce que,
en fait, j'ai peut-être changé de boîte, voilà. Donc dans ces cas-là, voilà. Ou alors, est-ce que je suis toujours dans la même société?
Exactement ça. En fait, on va devoir un petit peu creuser justement. Donc, en fait, ça va être totalement subjectif. On se comprend, mais en tout cas, ça va être de l'avis de quelqu'un qui va du médecin un conseil qui va devoir décider.
C'est aussi pour ça que dans les compagnies, vous avez des médecins et des référents qui étudient votre situation, à savoir si vous faites une dépression, si vous avez fait une dépression parce que vous avez perdu un enfant, vous n'êtes pas dans la même situation que lorsque vous en avez marre de votre boulot.
Évidemment.
D'accord. Et donc ça, c'est une analyse très fine qu'il y a dans les compagnies. C'est très important, ça.
Évidemment. Évidemment. Bien qu'on... évidemment, après, bon, je dis évidemment, mais le fait est qu'il ne s'agit pas c'est de logique. Pointer du doigt les raisons pour lesquelles on est mal à un moment donné. Bref, juste rapidement, parce qu'il nous reste 40 secondes, je vais le faire toute seule. Les professions, ou alors vous le faites, mais très vite, les professions justement qui inquiètent particulièrement sur les risques de burn-out, est-ce que l'un de vous deux veut s'y coller ou j'y vais?
Oui, alors malheureusement, on fait un petit focus en ce moment sur la profession des enseignants.
Évidemment, là aussi.
Qui est tout à fait touchée, la profession des métiers du soin, de l'accompagnement.
Et dedans, on met à la fois tout le personnel médical, mais aussi social, hein, attention.
Oui, absolument, absolument.
Les professions les plus utiles, en fait.
Ouais.
Et puis, nous, on a un petit focus chez nous particulier, je voulais en parler, c'est les routiers, finalement.
Ah oui?
Oui, oui, absolument, les routiers, c'est une nouveauté.
Ah bah ouais, mais pas si étonnant que ça.
Voilà,
c'est quand même pas...
voilà.
Et puis il y a les professions médiatiques aussi, vous dites.
Sous pression.
Ouais, boucler la boucle.
Sous pression. Sous pression, Marc.
C'est quoi les professions médiatiques sous pression?
Écoutez,
les lobbyistes,
c'est tous ces gens. Ces gens qui couvrent des conflits, par exemple. Voilà.
Merci à tous les deux. C'était intéressant, franchement, de voir cet angle-là. Et j'attends la liste des pays où on n'est pas surprimé, quand même. Ça m'intéresse. Merci à Emmanuel Provost, le directeur général d'Afiesca Patrimoine, et à Astrid Cousin, la porte-parole de Magnolia.fr. Merci à notre duo de choc de l'assurance de prêt qui reviendra très bientôt, évidemment, sur l'antenne de BFM Business dans les experts de l'IMO tous les jours à l'heure de votre déjeuner.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.